Bonjour à tous. C'est toujours une grande joie de revenir ici. Et je ne sais pas ce qu'est-ce qui me fait le plus plaisir, si c'est de revoir les têtes qui sont connues ou de voir qu'il y a aussi de nouvelles têtes à chaque fois. Donc ça fait vraiment plaisir. Et merci de nous laisser un petit moment là pour vous présenter donc le projet de formation qu'on a avec ma femme Eline. Et voilà, pour vous expliquer un petit peu comment est-ce qu'on en arrive là, on va juste faire un petit récap de nos vies. Donc pour ceux qui nous connaissent et qui ne nous connaissent pas, pour que tout le monde soit à la page. Et je vais laisser Eline commencer.
Eh bien, bonjour à tous. Du coup, vous ne me connaissez pas forcément tous. Je viens de Grenoble. J'ai grandi dans une famille chrétienne. Et à l'adolescence, j'ai un peu tout remis en question. Est-ce que je suis victime d'un bourrage de crâne ou est-ce qu'il y a vraiment quelque chose avec Dieu ? Et heureusement, Dieu s'est révélé à moi dans sa parole et m'a révélé que j'avais besoin d'un sauveur et qu'il était la seule réponse raisonnable. Et de là, en fait, quand on réalise tout ça, tout ce qu'il a fait pour nous, la réponse évidente, c'est de vouloir le servir, de servir ce bon maître. Et du coup, c'est ce qui m'a amené à faire, que ce soit à Grenoble, à Montpellier où j'ai fait mes études, à Tin Ranch aussi pendant les colos. Et à l'issue de mes études, je réalisais que j'avais vraiment envie de le continuer à le servir, mais que j'avais besoin de le servir en ancrant davantage ce que je faisais dans la Bible, dans la parole. Et du coup, l'envie de me former a commencé à ce moment-là. Et je me disais, je vais aller à un endroit, je vais travailler 2 ans, je vais économiser et je partirai. Et en parallèle, il y avait une autre réflexion. J'ai l'impression d'être beaucoup dans le faire pour Dieu, un peu un activisme ecclésial. Et je me disais, mais est-ce que je me sens utile finalement? Et c'est pour ça que je me trouve bien à servir Dieu. Ou est-ce que vraiment je le fais pour les bonnes motivations? Et c'est pour ça que je suis allée dans une église à Toulouse, qui du coup, avaient une activité d'église très épurée. Donc je savais qu'en y allant, personne n'allait me demander de faire quoi que ce soit. Et du coup, ça allait remettre ça à l'épreuve. Et aussi, ils passaient beaucoup de temps dans la parole. Et du coup, ça allait être aussi un petit temps de formation en attendant de pouvoir aller dans un institut. Et du coup, de me former un petit peu à mieux étudier la parole.
Et donc moi, j'ai grandi à Grenoble, donc je m'étais fait baptiser dans une église là-bas, et je suis arrivé en 2015 à Lyon dans cette église, et je remercie encore Dieu pour l'église de Sonra qui m'a vraiment fait grandir de fou. Je pense que c'était la première fois où j'ai compris en fait à quoi ça servait l'église, à quel point c'était un bénéfice pour moi et que je pouvais aussi être un bénéfice pour les autres. Et donc j'y suis resté 5 ans et demi, j'ai commencé à pouvoir m'investir petit à petit, et du coup j'en sentais aussi le besoin de me former pour être un peu plus équipé pour le groupe de jeunes, pour les présidences, etc. Mais en même temps je me projetais pas du tout en tant que pasteur ou quoi que ce soit, donc je me questionnais sur est-ce que je vais me former, si oui, pourquoi, où, etc. Et c'est là où on m'a proposé d'aller à Toulouse pour faire un stage pastoral pendant 2 ans. Donc c'est ce que j'ai fait de 2020 à 2022. Et en fait, donc c'est un stage que Eline a pu faire aussi, donc une période pendant laquelle on a pu, c'était plus une formation en fait qu'un stage, on a pu passer beaucoup de temps à écouter à étudier la Bible, on a pu la transmettre aussi, que ce soit en 1 à 1, la lire avec des personnes, on a pu ou s'occuper de petits groupes de quartiers, de maisons, on a pu voir aussi comment l'église elle fonctionnait, comment est-ce que les anciens y fonctionnaient entre eux. Et voilà, et donc ça a pu nous faire beaucoup, beaucoup grandir, on en a bien profité.
Et du coup, à l'issue de ces années de stage, ce que ça a produit, on a toujours envie de servir Dieu, ça nous a pas découragé, au contraire. Et en fait, on a été trop encouragés de voir des vies transformées par Dieu et d'être spectateurs de cela. Et ça nous a aussi convaincu qu'on avait besoin d'une formation théologique solide, parce qu'en fait, on a vu vraiment comment la parole exposée à nous-mêmes, aux personnes, ça transforme, ça convainc. Et cette puissance de la parole, on se rend compte qu'on a besoin d'être mieux outillé pour mieux la comprendre, mieux la connecter à notre propre vie, à la connecter à celle des autres, et aussi mieux la transmettre. Et c'est pas évident. Et du coup, que ça soit en groupe ou en 1 à 1. Et du coup, c'est pour ça que on a une idée.
Voilà. Donc du coup, notre but à l'issue de ça, donc ce qui est d'ailleurs confirmé et appuyé par les gens qui nous ont entourés là-bas à Toulouse, C'est d'aller nous former pendant 3 ans, donc à partir de cette rentrée, pour pouvoir après, donc dans mon cas, si c'est confirmé par Dieu, de pouvoir travailler en tant que pasteur à plein temps, et pour Eline, passer ces 3 ans d'études aussi pour être équipée pour servir l'Église, accompagner des femmes, faire du discipulat, de l'évangélisation, etc. Et donc ça, on a donc il y a ce projet qui s'est développé. Entre temps, on s'est marié l'année dernière, donc on a juste dû fusionner les projets pour savoir notamment où est-ce qu'on allait se former et quand est-ce qu'on allait se former. Et le choix donc s'est donc porté sur l'Institut biblique de Bruxelles. Donc on irait se former à partir de septembre de cette rentrée jusqu'en 2026. Donc pourquoi ce choix? Parce que c'est vraiment un lieu de formation qui nous paraît être à la fois très ancré et fidèle à la parole, et c'est ce dont on a besoin, et que ce soit aussi un endroit qui s'attache à appliquer la parole, que ce soit auprès d'autres personnes dans l'Église, ou même nous, on est convaincu que c'est aussi un endroit où on pourra nous-mêmes grandir spirituellement. Et ceci, voilà, un endroit qui, un lieu où on est incité, on est obligé en fait de faire un stage pendant les 3 années. Et donc de notre côté, on sera en stage dans une église à Lille. Donc c'est une autre église CEF, voilà, où c'est plus un projet qui est assez complémentaire à ce qu'on a vécu à Toulouse. Toulouse c'était plutôt une église jeune. Là c'est une église un petit peu moins jeune. Donc on trouvait ça très intéressant de pouvoir voir comment est-ce que le pasteur qui vient d'arriver là-bas fonctionne. Donc c'est un petit défi aussi parce qu'on va devoir faire les trajets 3 jours par semaine entre Lille et Bruxelles, donc ça va être un petit peu sportif, mais on a l'impression que pour le moment c'est là-bas que Dieu nous dirige.
Juste, quand tu dis église jeune, c'est implantation par rapport à les établis?
Oui.
Juste, quand il dit jeune, c'est pas qu'il y avait beaucoup de jeunes aussi, mais c'était une église jeune en âge, et c'est une église plus établie dans le Nord. Voilà où on en est dans nos réflexions, du coup, pour l'avenir. Et du coup, ben, par quels moyens, ben, en fait, on croit que Dieu, il peut pourvoir matériellement et spirituellement, ben, pour 3 raisons au moins. Si c'est son projet, si on prie pour ça et si on est soutenu dans la prière pour ça. Et du coup, ben, on voulait vous partager nos premiers sujets de prière tout frais, tout neufs pour la suite. Donc, les premiers, c'est... si vous pouvez prier pour que on reste fidèle dans notre caractère sur la prochaine période à venir. On va déménager, on est en recherche d'un logement, il y a de l'inconnu, et du coup, qui dit inconnu dit aussi stress, et du coup, qu'on puisse vivre cette période où on est pleinement dépendant de Dieu. C'est une chose de vouloir faire le pas de foi, de partir à l'autre bout de la France, là où il fait moins beau, pour servir le Seigneur. Mais ce qui lui plaît encore plus, c'est que dans cette période de transition, ben, comment est notre caractère? Est-ce qu'on reste fidèle dans les petites choses du quotidien? Ou est-ce que ben, on se met en colère, on est impatient, même si on va dans le Nord? Donc ça, c'est important, si vous pouvez prier pour que notre caractère il reste fidèle dans cette période de transition. Si vous pouvez aussi prier pour les aspects pratiques, on est toujours en recherche d'un logement, il nous manque encore des financements, donc voilà, que Dieu puisse pourvoir dans ce domaine-là. Si vous pouvez également prier pour nos cœurs, durant ces 3 années, on va engranger beaucoup de théories, et ce serait tellement dommage que cette théologie, elle reste juste dans la tête et qu'elle transforme pas du tout dans notre cœur, et du coup qu'on puisse être vraiment transformé et impacté durant ces 3 années. Et aussi, ben, si vous pouvez prier pour notre intégration là-haut, que ça soit à l'église ou dans le quartier, on aura notre appartement pour puisse avoir des bonnes relations avec les voisins, etc.
Et donc, on a des besoins en prière, on a aussi des besoins très matériels si on veut voilà, pouvoir suivre tous les deux ces 3 ans de formation à temps plein. Donc on a étudié, évalué notre budget à peu près à 2700 euros par mois. Donc ça comprend tous les frais de transport, de scolarité, etc. Et donc on a prévu de grosso modo couvrir ça en 3 tiers. D'une part, il y a donc les CEF, notre famille d'église qui nous soutient. Il y a différentes églises aussi qui nous soutiennent par leur budget. Ensuite, donc il y a une partie qui viendra de nos économies. Dieu nous a permis de travailler et de mettre un peu d'argent de côté, donc c'est quelque chose qu'on croit que c'est une grâce que Dieu nous a faite et qui nous invite à nous en servir aussi maintenant. Et puis une troisième partie qui est plus des soutiens de particuliers, d'amis, de familles ou de membres d'église, comme vous, qui aurez à cœur de nous soutenir pendant 1 an, 2 ans ou 3 ans. Quel que soit le montant, nous, ce qui est le plus important pour nous vis-à-vis de notre budget, c'est plus d'avoir des personnes qui donnent dans la régularité, qui nous disent, pendant un an, je vais vous donner 10 euros par mois. Et ça, pour nous, c'est vraiment quelque chose de génial. Donc, si c'est quelque chose qui vous tient à cœur, si vous avez envie de nous soutenir, on a imprimé des petits flyers qu'on a posés sur le présentoir d'entrée. Et donc, vous aurez toutes les informations à l'intérieur, soit pour nous soutenir donc financièrement. Ça passera tout par l'Entente évangélique, donc les CEF. On aura un compte là-bas. Et puis aussi, pour nous soutenir dans la prière, on a prévu un groupe WhatsApp et une newsletter. Donc un groupe WhatsApp qui permettra d'échanger des sujets un petit peu plus à chaud au jour le jour. Et une newsletter pour peut-être tous les trimestres des nouvelles un peu plus de fond de ce qui nous arrive. Donc n'hésitez pas à prendre ces petits papiers, et il y a des QR codes ou des liens pour vous inscrire et avoir toutes les informations là-dessus. Et puis n'hésitez pas aussi à venir après le culte pour discuter avec nous si vous avez des questions. Et on voulait simplement vous laisser avec ce superbe verset que Paul écrivait aux Éphésiens, qui nous rappelle que Dieu, c'est ce Dieu qui est tout puissant et qui peut faire plus et bien plus que même ce qu'on pense, qu'on lui demande et ce qu'on imagine. Et que le but de tout ça, c'est même pas qu'on aille se former ou quoi que ce soit. Le but de tout ça, c'est que Dieu y soit glorifié et qu'il le soit dans l'Église, que ce soit à Lyon, dans le Nord ou autre, et que ce soit en Jésus-Christ. Voilà. Merci pour votre attention.
Je voudrais simplement rassurer Eline, les gens du Nord ont dans le cœur le soleil.
C'est ce qu'on nous a dit pour nous rassurer que le soleil était dans le cœur des gens.
Et donc, après avoir parlé un peu de nous, je vous propose qu'on parle de Dieu. Et je vous invite à prendre donc vos Bibles. Et donc à les ouvrir dans l'évangile de Marc. Et si vous n'avez pas de Bible, vous pouvez vous peut-être suivre avec votre voisin. Et on va aller donc dans l'évangile de Marc et au chapitre 4. Et donc je vais simplement commencer par lire le texte et puis ensuite je prierai et puis on verra ce que Dieu a à nous dire ce matin. Donc Marc au chapitre 4, et je vais lire les 20 premiers versets. Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord du lac. La foule se rassembla autour de lui, si nombreuse qu'il monta dans une barque où il s'assit sur le lac. Toute la foule était à terre sur le rivage, et leur enseignait beaucoup de choses en paraboles. Et voici ce qu'il leur disait dans son enseignement. Écoutez, un semeur sortit pour semer, et comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un sol pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouvait pas un terrain profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Une autre partie tomba parmi les ronces. Les ronces poussèrent et l'étouffèrent et elle ne donna pas de fruits. Mais une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit qui montait et se développait avec un rapport de 30, de 60 ou de 100 pour 1. Puis il leur dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Et lorsqu'il fut seul avec eux, ceux qui l'entouraient avec les 12 l'interrogèrent sur cette parabole. Et il leur dit, c'est à vous qu'il a été donné de connaître le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont à l'extérieur, tout est présenté en parabole. Afin qu'en regardant, ils regardent et ne voient pas, qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent pas. De peur qu'ils ne se convertissent et que leur péché ne soit pardonné. Et il leur dit encore, vous ne comprenez pas cette parabole, mais comment donc comprendrez-vous les autres paraboles? Le semeur sème la parole. Certains sont le long du chemin où la parole est semée. Dès qu'ils l'ont entendue, Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. De même, d'autres reçoivent la semence dans un sol pierreux. Quand ils entendent la parole, ils l'acceptent aussitôt avec joie, mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ils sont des hommes d'un moment et, dès que surviennent les difficultés ou la persécution à cause de la parole, ils trébuchent. D'autres encore reçoivent la semence parmi les ronces. Ils entendent la parole, mais les préoccupations de ce monde, l'attrait trompeur des richesses et les passions en tout genre pénètrent en eux, étouffent la parole et la rendent infructueuse. Mais d'autres, enfin, reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, l'accueillent et portent du fruit avec un rapport de 30, de 60 et de 100 pour un. Je vais juste prier. Seigneur, notre demande, elle est simple ce matin. C'est que tu nous permettes de comprendre ces choses. Et on voit des disciples dans ce passage qui viennent, qui te demandent « qu'est-ce que tu veux dire par là ?» Et c'est notre demande ce matin, on te demande de nous expliquer clairement qu'est-ce que tu veux qu'on comprenne, et qu'est-ce que tu veux qu'on pense, et qu'est-ce que tu veux qu'on fasse. Amen. Et ton Dieu, qu'est-ce qu'il fait pour un monde en vrac ? Cette question... C'est une personne qui me l'a posée quand j'étais encore à Lyon il y a quelques années, qui était très engagée dans les œuvres sociales, écologiques. Elle avait fait ce constat qu'on fait tous, que le monde, il va pas très bien, qu'il tourne pas rond. Elle y mettait toutes ses forces pour chercher à arranger les choses. Et du coup, quand elle a appris que j'étais chrétien, elle me dit « Mais t'es bien gentil, mais ton Dieu, s'il existe, lui, pendant que moi, je m'efforce de faire ce que je peux, s'il est tout-puissant, qu'est-ce qu'il fait ?» Et c'est, je suppose, une question que vous avez entendue un certain nombre de fois, et peut-être qu'en fait, on se pose aussi assez souvent quand les choses, elles ne tournent pas comme on aimerait. Et donc, face à cette question, Dieu, qu'est-ce qu'il fait ? Soit on fait comme cette fille, et on se dit, puisque Dieu, il a pas l'air d'agir comme je voudrais, puisque Dieu, il ne diminue pas la température sur la planète, puisque Dieu, il ne règle pas le problème de la faim dans le monde, sans doute qu'il n'existe pas. Ou alors, peut-être que parmi nous, chez les chrétiens, on a peut-être une autre réponse qui consiste à se dire « Dieu, en fait, il est tout-puissant, il existe, mais en fait, il agit, il nous laisse la liberté. Donc en fait, si le monde y va pas bien, c'est parce que il se retient d'agir un peu comme un droit de non-ingérence vis-à-vis des êtres humains. C'est un peu comme dans le film Bruce Tout-Puissant, pour ceux qui l'ont vu, même si ça remonte un petit peu, où on voit que Dieu, en fait, il est tout puissant, mais peut pas agir pour pas contrevenir à la liberté humaine. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle de ça? Quel est le rapport avec ce matin? Parce qu'en fait, cette question de qu'est-ce que fait Dieu dans le monde, c'est exactement la question que se posaient les gens à l'époque où Jésus est arrivé. Parce que Jésus, au début de l'évangile de Marc, il nous raconte que Jésus, il arrive, il débarque et il dit, le royaume de Dieu est arrivé, croyez à la bonne nouvelle et convertissez-vous. En gros, il dit, c'est moi, je suis le roi divin, je viens établir mon royaume. Et du coup, Dieu est en train d'arriver sur la terre, il dit qu'il va établir son règne. Et donc, face à lui, il y a cette question que tout le monde se pose, mais qu'est-ce qu'il va faire? Et pour les uns, Dieu qui arrive, ça devrait être Dieu qui règle tous les problèmes. Pour certains, c'était que Dieu, que Jésus, il vienne et règle tous leurs problèmes vis-à-vis de l'empereur. Qu'ils se débarrassent de ce dictateur. Pour d'autres, c'était qu'ils règlent tous leurs problèmes physiques. Et il y en avait aussi d'autres qui se disaient, moi, si Dieu vient, il faut que, en fait, il faut pas qu'il dise trop de choses, parce qu'il doit nous laisser notre liberté. Donc ça, c'était cette question qu'on a nous aujourd'hui, c'était exactement celle des gens en face de Jésus à l'époque. Et on a nos réponses. Et ce qui est bien, c'est que cette fois-ci, c'est Jésus qui va prendre la parole et qui va nous expliquer ce que lui, il fait dans le monde. Et si vous avez prêté attention pendant la lecture, est-ce que vous sauriez me dire quels sont les deux mots qui sont répétés chacun 7 ou 8 fois dans ce passage? Alors il y a semer, effectivement. Et qu'est-ce qui est semer? La parole qui est répétée encore plus de fois que semer. Et il y a un deuxième mot. Les terrains, c'est même pas répété autant de fois que le mot que je cherche. Entendre ou écouter. En fait, c'est le même mot. Donc, face à toutes les personnes qui se posent des questions face à Jésus en lui disant « Mais qu'est-ce que tu vas faire ?» Jésus, en fait, il apporte un message qui est très simple. Écouter la parole. Et donc moi, j'avais une proposition de plan qui était plutôt simple. Grand 1, écouter la parole. Grand 2, écouter la parole. Je pense que Jésus, en fait, est un peu plus fin que ça. Il nous donne les deux raisons en or pour écouter la parole. Premièrement, parce que la parole, elle nous révèle le royaume de Dieu. Et deuxièmement, parce qu'elle nous permet de porter du fruit pour le royaume de Dieu. Pourquoi est-ce que la parole, elle nous révèle le royaume de Dieu? Ben ça, c'est ce qu'on voit dans le verset 11. Il leur dit, c'est à vous qu'il a été donné de connaître le mystère du royaume de Dieu. Et donc Jésus est en train de dire que la parole, les paraboles qu'il est en train de donner, elles sont là comme une révélation du royaume de Dieu. Et donc là où les gens avaient beaucoup d'attentes sur ce que Jésus allait faire, sur la manière dont son royaume allait s'établir et se propager, là où nous-mêmes, on a des attentes très précises parfois sur ce que Dieu va faire, Jésus, il nous dit qu'en fait son royaume, il progresse pas par du spectaculaire. Il progresse pas par des grands miracles qui éclateraient aux yeux. Il progresse pas non plus par la violence. Le royaume de Dieu, il progresse par la parole du semeur que certains vont écouter. Et c'est ça qui va faire grandir le royaume. Et donc pour expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est qu'un mystère. Un mystère dans la Bible, c'est quelque chose qui était caché et qui maintenant est révélé. C'est un peu comme une déclassification de documents classés très secrets. Et Jésus est en train de leur dire que le grand projet éternel de Dieu pour le salut de l'humanité, ben en fait, il est plus caché. Maintenant, il y a tous les plans qui sont donnés, qui sont établis sur la table. Et peut-être que ça nous fait pas grand-chose d'entendre ça. Parce que nous, on préférait avoir d'autres mystères qui nous soient révélés. On préférait parfois que ce que Dieu nous révèle, c'est les petits mystères de nos vies, des petits choix très concrets qu'on n'arrive pas à faire concernant nos orientations, concernant nos lieux de vie, notre conjoint. Et du coup, si la Bible ne répond pas à ça, ben on perd un peu de l'intérêt pour la parole. C'est peut-être ce qui explique parfois justement, on n'ait pas de passion, qu'on aille chercher des conseils ailleurs que dans la Bible pour nos choix. Si c'est notre cas, j'aimerais quand même attirer notre attention qu'en réalité, le fait que cette parole, ce soit la révélation du grand mystère, du grand projet du royaume de Dieu, en fait, c'est exactement ce qu'on cherche. En fait, vous avez remarqué combien on est attiré par les secrets. Combien on aime être au courant des choses avant les autres. Combien on aime être dans les petits papiers. C'est aussi pour ça que les théories du complot, elles ont du succès, parce qu'on aime cette notion de se dire « je suis au courant de quelque chose qui est caché, les autres le savent pas, et moi je le sais ». Et c'est même tout simplement ce principe-là qui fait que quand il y a YouTube ou Facebook qui nous fait une suggestion qui s'intitule « ce que le gouvernement ne veut surtout pas que vous sachiez sur la guerre en Ukraine », ben on a du mal à pas cliquer, parce qu'on a envie d'être au courant. Et là, ce que Jésus est en train de dire, c'est que ce qu'on a sous les yeux, c'est pas juste une théorie du complot un peu douteuse, c'est pas juste un petit ragot sur qu'est-ce qui va se passer dans une entreprise, c'est la révélation du grand projet de salut éternel de Dieu. C'est bien plus grand, bien plus important que parfois les petits trucs qu'on cherche. Et donc ça, si on réalise ça, qu'est-ce que c'est que vraiment le contenu de cette parole? Ça devrait nous donner envie, le matin, en fait, de cliquer sur cette Bible et de l'ouvrir pour comprendre et avoir sous les yeux qu'est-ce que Dieu est en train de faire. De comprendre qu'en fait, le grand complot qui se déroule, c'est pas sur des groupes sataniques qui essaieraient de nous mettre des puces sous la peau. Le grand complot, en fait, c'est un complot divin qui est un bon complot et en fait, qui est plus du tout caché. C'est comment est-ce qu'il va délivrer ce monde de tout ce qui ne va pas. Ça, c'est ce que la Bible, c'est ce que la parole, elle est. Et je me suis arrêté au début du verset 11, mais il y a la suite qui vous a peut-être choqué à la lecture. Quand il est question que, certes, cette révélation du royaume, elle est donnée à ses auditeurs, mais à ceux qui sont à l'extérieur, tout est présenté en parabole. Et pour comprendre ces versets, en fait, faut retracer un petit peu ce qui s'est passé jusque-là. Et en trois chapitres dans l'évangile de Marc, Jésus il est arrivé, il a fait que du bien, et pourtant la tension elle monte contre lui. Il y a de l'opposition, et ça se cristallise au chapitre 3. Et au chapitre 3, Jésus il dit en fait, il y a deux catégories de personnes. Il y a ceux qui sont avec moi, et il y a ceux qui sont à l'extérieur. Il y a ceux qui sont dehors. Et c'est ça qu'il est en train de reprendre ici. Et on pourrait croire, à la première lecture que ceux qui sont dehors, c'est ceux qui s'opposent frontalement à Jésus. Si vous lisez les trois premiers chapitres, vous verrez qu'il y a des gens qui s'opposent frontalement à Jésus. C'est ces pharisiens qu'on a vus avec JL, qui eux, ils en veulent à Jésus. On se dit, bah, eux, ils sont dehors, eux, ils sont opposés à Jésus. Et les autres, tous ceux qui écoutent, bah, ils sont à l'intérieur. Et en fait, c'est pas le cas. C'est pas le cas parce qu'au chapitre 3, on voit que même la famille de Jésus, en fait, ils sont à l'extérieur. Et donc, le gros problème de ceux qui sont à l'extérieur, de ceux qui font pas partie du royaume, c'est qu'en fait, ils pensent en faire partie pour certains, mais en fait, pas du tout. Et donc là, il y a une question qui surgit, qui est centrale, qui est de savoir, mais comment est-ce qu'on sait si on est à l'intérieur ou à l'extérieur du royaume de Dieu? Et là, Jésus, il nous donne le critère en or. C'est que ceux qui sont à l'extérieur, c'est pas juste ceux qui rejettent Jésus explicitement, c'est pas juste ceux qui s'opposent à Dieu, qui ne croient pas en lui. En fait, c'est le rapport à la parole de Jésus qui dessine les frontières du royaume. Ceux qui sont à l'intérieur, c'est ceux qui, avec les disciples, ne partent pas à la fin de la journée et cherchent à comprendre. En fait, dans toute la foule qui a écouté Jésus, ben, il y avait déjà, à l'époque, les chrétiens du dimanche, des gens qui faisaient des kilomètres et des kilomètres à pied, qui venaient écouter les belles paroles de Jésus, qui rentraient chez eux, et sans doute que leurs collègues, ils pensaient qu'ils étaient chrétiens. Sans doute que eux-mêmes, ils se croyaient avec Jésus, mais en fait, non. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas ce désir de comprendre la parole. Et si on en vient à la parabole, ce n'était pas de ces terres qui portent du fruit. Ils entendaient la parole, elle venait à eux, mais ils ne la laissaient pas pénétrer profondément en eux jusqu'à ce qu'elle porte du fruit. Et donc, la grande question, c'est pas juste est-ce que j'écoute la parole? Est-ce que je lis la Bible? La question, c'est quelle est mon attitude par rapport à la parole? Est-ce que je la laisse pénétrer en moi, avoir de l'influence et porter du fruit en moi? En gros, est-ce que la parole de Dieu, est-ce que la Bible, c'est un peu comme dans ces maisons où parfois il y a la télé qui tourne en bruit de fond. Et en fait, c'est juste un bruit de fond. Après coup, on n'est même pas capable de savoir quelle était l'émission qui passait. Est-ce que la parole de Dieu, c'est comme un bruit de fond? On l'écoute, mais une semaine après, on ne sait même plus ce qu'on a lu ou ce qu'on a entendu. Ou est-ce que la parole de Dieu, on en boit les paroles comme si on était devant un médecin qui nous explique qu'on a un cancer et qui est en train de nous donner notre seule solution pour arrêter sa propagation? C'est ça qui est le critère de savoir si on est dedans ou dehors. C'est la manière dont on s'attache à la parole, dont on la laisse avoir de l'influence en nous. Et verset 12, le verset encore plus choquant, où Jésus dit qu'il parle maintenant en parabole afin que ceux qui sont dehors, eh bien, en regardant, ils regardent et ne voient pas, qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent pas, de peur qu'ils ne se convertissent et que leur péché ne soit pardonné. Et là, nous, ça nous fait très très bizarre de dire ça. On a l'impression que Jésus est en train de les condamner, de leur empêcher de comprendre. Mais rappelons-nous qu'en fait, Jésus, il est venu précisément pour appeler les gens à se convertir. Il est venu précisément pour donner sa vie et permettre que leur péché ne soit pardonné. Et en fait, ce qu'il est en train d'expliquer là, c'est que le fait de parler en parabole, c'est un peu comme si vous aviez un conflit avec quelqu'un de votre voisinage et que vous lui envoyez une lettre de mise en demeure. Et la lettre de mise en demeure, en fait, ça peut avoir deux effets. Au départ, c'est pour que la personne en face, elle se bouge et elle change. C'est un peu la dernière main tendue pour que l'autre, il change et il reconnaisse ses torts, qu'il rétribue ce qui doit être rétribué. Mais si jamais il refuse, en fait, la lettre de mise en demeure, c'est une preuve à charge quand on va aller devant le juge contre lui pour dire « j'ai tout fait » et il a rien écouté. Et donc c'est ça l'effet de la parole de Dieu, c'est que finalement, elle révèle ce qui était... Elle a l'effet que les gens voulaient qu'elle ait... Ceux qui voudront écouter, bah, elle aura l'effet de leur révéler le royaume de Dieu, mais à ceux qui, depuis le départ, en fait, ne voulaient pas écouter, bah, elle les enfoncera. Et elle leur dira, bah, ok, tu ne veux pas écouter, bah, tu n'écouteras pas et tu ne comprendras pas. Donc voilà pourquoi, la première raison pour laquelle on devrait s'attacher fermement à la parole de Dieu, parce qu'en fait, c'est comme si on était, sans elle, des sourds et des aveugles. Et donc si on est sourd et aveugle et qu'on a quelque part quelque chose qui nous permet d'avoir la vue et l'ouïe, alors ça devrait nous intéresser. Mais ce n'est pas tout. Je pense que ce que je viens de dire, cet enseignement de Jésus, pour la plupart d'entre nous, il n'est pas tellement choquant au nouveau. En tant que chrétien évangélique, pour ceux qui fréquentent l'Église depuis un certain temps, on croit que la parole de Dieu, elle est vraie. On croit qu'elle est importante. Mais ma question, c'est, est-ce qu'elle change vraiment des choses? En gros, est-ce que la parole de Dieu, c'est pas un peu comme un dictionnaire divin ou un journal divin qui nous dit des choses qui sont vraies? On la lit, on trouve ça chouette, mais en fait, derrière, elle change pas grand-chose. Et c'est là qu'on a besoin de cette parabole et de se poser cette question, pourquoi est-ce que le semeur, il sème? Pourquoi est-ce que Jésus, il est venu sur cette terre marcher parmi nous? Pourquoi est-ce que devant cette foule, il a pris la parole? Marc 4, verset 20. Ce sont ceux qui entendent la parole, l'accueillent et portent du fruit, avec un rapport de 30, de 60 ou de 100 pour 1. Si Jésus est venu faire tout ça, c'est pas juste pour nous révéler des choses qui sont vraies, c'est en fait pour nous en rendre participants. Il n'est pas juste venu dévoiler les secrets du royaume, il nous propose maintenant à tous, à vous et à moi, de devenir acteurs du royaume et de porter du fruit pour le royaume. Et nous, on a nos propres désirs de grandeur, d'avoir du sens, de porter du fruit. On essaie de trouver un travail qui a du sens, qui permet d'avoir de l'impact. Mais là, Jésus est en train de nous dire, mais si vous laissez impacter par la parole, vous pouvez avoir un rendement de 50 000% pour un projet, pour le grand projet éternel de Dieu. Et c'est ça aussi qui devrait nous faire rêver. On devrait avoir envie d'écouter la parole pour qu'elle porte du fruit, pour qu'on ne soit pas juste en train de vivre et de travailler juste sur cette terre, mais pour le royaume éternel de Dieu. Et il nous reste une question à régler, c'est comment on fait? Quels sont les obstacles au fait de porter du fruit? Et qu'est-ce qui nous permet de porter du fruit? Et pareil, j'aimerais bien faire un petit sondage ce matin selon vous, qu'est-ce qui nous empêche de porter du fruit? Qu'est-ce qui nous empêche de progresser, d'avoir une vie qui plaît à Dieu comme on devrait l'avoir? Et je pense que si on écrivait chacun nos réponses sur des post-it, il y aurait deux catégories. Il y aurait les déresponsabilisants, ceux qui disent, en fait, moi, si je porte pas fruit, c'est parce que je suis fait comme ça. J'étais fait comme ça, donc je peux pas changer grand-chose. Ceux qui diraient, moi, le problème, c'est mon boulot, c'est mon rythme de vie, j'ai pas le temps. D'autres diraient que c'est leur entourage chez les autres qui me tire vers le bas. D'autres qui accuseraient Satan, d'autres qui accuseraient la société. Donc ça serait la première catégorie. C'est ceux qui disent, il y a des choses extérieures qui font que je porte pas de fruits. Deuxième catégorie, c'est les culpabilisants. Qui répondent, le problème, c'est toi. En fait, si tu voulais, tu pourrais. Donc si tu fais pas, c'est ta faute. C'est qu'en fait, tu veux pas vraiment. Tu te saisis pas des moyens que tu as. Et donc, entre les culpabilisants et les déresponsabilisants, qui a raison? Eh bien, je pense que Jésus, il donne un petit peu raison aux deux dans ce passage. Parce que si on revient à cette parabole, on remarque que Jésus, il souligne massivement l'influence de l'extérieur. Regardez comment, pour ces trois premières terres qui ne portent pas de fruits, on a l'influence pour la première terre des oiseaux, qui sont Satan lui-même, rien de moins. Pour la deuxième terre, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le soleil qui sont les difficultés, la persécution. Ensuite, les ronces qui sont les occupations de ce monde, les richesses et les passions. Et donc ça, pour ceux d'entre nous qui sont un petit peu dans le camp des culpabilisants, on a besoin d'écouter Jésus qui nous dit, en fait, on ne vit pas dans un monde qui est neutre. C'est pas juste « je veux, je peux ». C'est qu'en fait, le monde, notre environnement, il n'est pas neutre spirituellement et il y a une influence, il y a un combat. Il y a le diable lui-même, le monde, qui est en train de mener une guerre. Mais une guerre contre quoi? contre la parole et contre son effet dans nos vies. Et non seulement cette guerre, elle est là donc contre la parole, elle cherche à s'opposer à l'écoute de la parole, à l'intégration de la parole. Et je pense aussi que cette guerre, elle se mène contre notre attention à la parole. Je me rappelais que, il faut se rendre compte que les plus grandes entreprises aujourd'hui, leur business, c'est de capter notre attention. Et donc, vous avez sans doute déjà vécu ce genre de conversation, vous êtes en train de parler à quelqu'un, et puis là, il y a une notification sur son téléphone. Allô ? Et en fait, vous vous rendez compte que l'autre personne a complètement perdu le fil de la conversation parce qu'elle était sur sa notification. Et donc, si les smartphones et toutes ces choses qui sont là pour capter notre attention, elles sont des dangers pour notre écoute les uns des autres, à combien plus forte raison, si on ne fait rien, elles sont un danger pour notre écoute de Dieu. Donc oui, il y a une influence forte de l'extérieur qui s'oppose à notre écoute de la parole de Dieu, mais en même temps, qu'est-ce qui permet à ces agents extérieurs d'agir? Qu'est-ce qui permet à Satan de venir picorer la parole? C'est que la parole, elle n'est pas descendue profondément. Qu'est-ce qui permet au soleil de faire sécher les épis de cette deuxième terre? Le même soleil, il brille sur les épis qui poussent dans la bonne terre. Sauf que eux, ils ont des racines suffisamment profondes pour pas être séchées. Et qu'est-ce qui permet aux ronces d'étouffer ces troisièmes épis? C'est tout simplement que il y avait des ronces. Et que il y avait une place qui avait été laissée aux ronces et à autre chose. Donc, on en tire que notre responsabilité, c'est de nous saisir des moyens que Dieu nous donne, d'accueillir la parole, de la laisser pénétrer en nous, de manière à ce que ces dangers ne puissent pas arracher, sécher, étouffer la parole. Si on creuse un petit peu, si on zoome sur ces dangers, ce qui a tué ces premières terres, c'est le danger de la passivité. Quand Satan vient picorer, c'est ces situations où on entend la parole, on entend parler de Dieu, et on se dit, ça a l'air vachement intéressant, mais là, je n'ai pas le temps. Moi, je verrai ça plus tard, je verrai quand mes travaux ils seront terminés ou quand je serai posé, et voilà, ce sera un projet pour plus tard. Et quand on fait ça, c'est du pain béni pour l'adversaire qui va venir picorer. Et ça peut aussi être nous-mêmes qui écoutons la parole, qui peut-être la lisons, mais si quelques jours, quelques semaines après, ça n'a rien changé, si on s'en souvient même pas, on ressemble dangereusement à cette terre passive, n'est-ce pas, la parole pénétrée en elle. Le danger de la deuxième terre avec le soleil, c'est le danger de la superficialité. Ça, c'est des terres qui ont où la caractéristique, c'est qu'au début, ça pousse. On entend l'évangile, on comprend. Et du coup, ça nous passionne pendant quelques mois, quelques années. On est tout feu, tout flamme. Mais si on ne veille pas à aller plus loin que cette phase, on va se faire cramer. C'est un peu comme si dans une relation de couple, on en restait un peu à la phase, la phase amoureuse, tout rose du début, sans chercher à creuser la relation. Si on en reste aux premiers instants, aux premières émotions de notre conversion, le jour où ça va devenir difficile, on va pas comprendre pourquoi ça devient difficile. On va abandonner le jour où on aura des gros pépins dans notre vie, le jour où ça va devenir dur socialement d'être chrétien, d'avoir des opinions différentes des autres, on va abandonner. Le jour où il faudra faire un choix coûteux pour obéir, on va abandonner, brûlé par le soleil des difficultés. Et le danger de la troisième terre, là où il y a les ronces, c'est le danger de la tolérance. Parce qu'on a tous, quelque part, cette pensée que il peut exister dans nos vies de volonté, qui pourrait exister dans nos vies de volonté, celle de Dieu et la mienne, avec d'un côté celle de Dieu qui, lui c'est les choses un peu spirituelles, et puis moi de ma vie je peux gérer les choses comme je veux, je peux acheter les voitures que je veux, Dieu n'a rien à me dire dans mon métier, dans mes loisirs, etc. Le problème, ce que dit cette parabole, ce que dit Jésus ici, c'est qu'en fait, il n'y a pas d'équilibre. Soit on laisse la parole de Dieu étouffer nos désirs, soit c'est nos désirs qui vont venir étouffer la parole de Dieu à terme. Et là aussi, ayons conscience du monde dans lequel on vit, où on nous dit à longueur de journée que la joie et le bonheur, ils viennent de quoi ? Ils viennent du plaisir qu'on se donne par les voyages, par le sexe, par la, une propriété, par la stabilité, par l'argent, par la santé. Et donc, la question qu'on doit se poser, c'est, en fait, qu'est-ce qui nous préoccupe le plus ? Qu'est-ce qui tourne dans nos pensées ? Soit en termes de désir, de projet positif, soit en termes de peur. Et nous devons faire attention à ce que ce qui relève de nos propres peurs, de nos propres désirs, ne prennent pas le pas et n'étouffent pas les désirs de Dieu et les projets de Dieu. Et si on n'y fait pas attention, c'est ce qui va t'arriver. Et en passant, après avoir vu ces trois terres, c'est les trois terres de cette parabole, c'est aussi ça nous encourage à ne pas être déstabilisés quand certaines personnes s'approchent de la foi, voire même semblent accepter la foi, et finalement, après un certain temps, abandonne. C'est malheureux, mais Jésus, il avait prévu ça, il avait prévu qu'il y ait des gens qui manifestent une croissance, mais au bout du compte, pas de fruits et de l'abandon. Et je pense aussi que c'est pour ça que Paul, il va préciser dans une lettre à Timothée qu'il n'est pas sage de mettre un jeune converti en responsabilité. Le but, c'est pas d'être méfiant vis-à-vis des conversions des gens, mais c'est simplement d'être patient, de voir est-ce que la parole, elle pénètre en la personne jusqu'à porter du fruit. Et ça, ça prend du temps. On a vu les contre-exemples, on a vu les dangers. Et maintenant, comment est-ce qu'on fait pour porter du fruit ? Et la réponse est à la fois super simple, et en même temps, c'est un grand, grand enjeu. Il s'agit tout simplement d'accueillir la parole et de la laisser porter du fruit en nous. Là, Jésus nous rappelle que nous ne porterons jamais, jamais, jamais du fruit nous-mêmes. La terre ne produira jamais rien s'il n'y a pas des graines qui sont semées en elle et qui pénètrent profondément. Et donc, c'est là tout notre rôle, c'est de ne pas aller chercher ailleurs notre croissance qu'en la parole, mais de nous y attacher, de désirer la laisser agir en nous et de le faire. Et là aussi, je pense que ça nous parle beaucoup pour des églises protestantes évangéliques, c'est que on a parfois tendance à faire de la parole un but. La parole de Dieu, c'est notre identité. Depuis l'école du dimanche, on connaît les livres du Nouveau Testament dans l'ordre grâce à la petite chanson. On connaît le nom du pays où Abraham habitait, c'est un peu notre fierté. Mais parfois, on ressemble un peu à quelqu'un qui a fait du solfège pendant 30 ans, mais qui touche jamais un instrument. C'est qu'en fait, la parole de Dieu, ça devient un but en soi. On la connaît très bien sur le bout de nos doigts, mais Jésus nous rappelle ici que le but de la parole, c'est pas juste la parole. En fait, la parole, c'est un moyen, et le but, c'est le royaume. Le but, c'est qu'on puisse porter du fruit pour le royaume. Donc la parole, c'est un moyen qui est vital, qui est unique, mais ça reste un moyen. Et donc la question, les questions qu'on doit se poser à nous individuellement et qu'on doit se poser les uns les autres, en fait, c'est pas est-ce que t'es bien allé à l'église, c'est pas est-ce que t'as bien lu ta Bible. Les questions qu'on devrait se poser, c'est en fait quel fruit Dieu est en train de te faire porter par la parole. Peut-être en ce moment, quel est le texte qui te parle? Qu'est-ce que Dieu t'appelle à changer? Est-ce que tu as décidé peut-être de renoncer à quelque chose en ayant lu un texte qui t'appelait à y renoncer? Est-ce qu'il y a un texte qui t'a rendu plus joyeux, qui t'a remonté un petit peu le moral récemment? Est-ce que tu es peut-être allé demander pardon à quelqu'un après que la parole, elle t'ait révélé que tu avais été en tort? Par rapport à quelle situation, quel aspect de ta vie, en fait, tu as envie de laisser la parole de Dieu te transformer et porter du fruit? Et ça, c'est du fruit un peu dans notre vie, mais aussi, est-ce que la parole de Dieu, elle porte du fruit vis-à-vis d'autres personnes? Quand est-ce que tu as pu parler de la parole à quelqu'un d'autre? Peut-être, quand est-ce que tu as pu lire la Bible, peut-être avec ou partager un verset avec quelqu'un qui ne connaît pas Dieu? Ou au contraire, partager un verset avec quelqu'un qui connaît Dieu mais qu'en avait besoin? Quand est-ce que tu as pu lire la Bible avec un jeune chrétien pour l'aider à grandir? C'est ça les questions qu'on devrait se poser, en nous rappelant que la parole, c'est ce moyen unique, puissant, mais c'est un moyen pour nous faire porter du fruit et du fruit abondant. En se souvenant que Jésus nous rappelle ici que la parole, c'est pas une baguette magique, c'est pas je lis ma Bible le matin et je vais tout comprendre et ça va tout aller bien dans la journée. On a encore une fois ici l'image d'une graine et ça prend du temps à pousser. D'un jour sur l'autre, on voit pas forcément si ça a eu de l'effet. Mais par contre, 6 mois après, ah, on commence à avoir des fruits. Donc voilà ce qui devrait être notre, par quoi on devrait être omnubilé. Savoir si cette parole de Dieu, quel est notre rapport à elle et quel effet elle a en nous. Et pour terminer, juste un petit zoom sur ce verset 13, où Jésus dit assez ironiquement à ses disciples, vous comprenez pas cette parabole-là, mais du coup, comment est-ce que vous comprendrez les autres? Et je vais revenir parce que du coup, les semaines suivantes, vous allez pouvoir étudier les autres paraboles. Et du coup, si j'ai bien fait mon travail normalement, vous devrez comprendre les autres, et sinon ça risque d'être compliqué. Donc pourquoi est-ce que cette parabole de semeur, elle éclaire toutes les autres paraboles? Parce que, si on a bien compris cette parabole, on comprend que Jésus, en fait là, quand il est en train de nous parler, il est en train, rien de moins, que de nous révéler son grand plan éternel, le royaume qu'il est en train d'établir, et qui progresse irrémédiablement. Donc, on va vouloir écouter avec attention pour savoir comment est-ce que ça se passe, pour savoir comment est-ce que Dieu est en train d'agir. Et ensuite, on va comprendre que si la parole, c'est ce moyen qui nous permet de grandir, de participer, de porter du fruit pour le royaume, bah là aussi, on va comprendre les autres paraboles, on va essayer de les travailler, de nous laisser transformer par elles pour participer, pour prendre part à ce royaume. Et en défi, pour vous, l'église de Sonra, pour que vous soyez une église de bonne terre, qui puisse porter du fruit jusqu'à 30, 60 et 100 pour 1. Moi, ce que je voulais vous encourager, nous encourager, c'est à la fois individuellement, mais aussi et voire surtout collectivement, à nous encourager à ça, et à nous demander les uns les autres, nous interroger sur notre rapport à la parole, aller voir quelqu'un et dire, pour toi, c'est quoi la parole? Comment est-ce que tu la considères? Qu'est-ce qui te donne envie ou pas de l'ouvrir? Et ensuite, nous interroger sur l'effet qu'elle a dans nos vies. De nous demander, en fait, dans quoi est-ce que la parole te challenge en ce moment? Et comment est-ce que je peux t'aider et prier pour ça, pour qu'elle puisse porter du fruit? Et je vais terminer en priant, et après je laisse la place à JL. Seigneur éternel, merci pour ce cadeau merveilleux qu'est la parole, sans lequel on serait comme des sourds et aveugles. On ne comprendrait rien à ce qui se passe. On n'aurait aucune idée de quel Dieu merveilleux tu as et en fait tu es et de quel projet énorme tu es en train de dérouler pour le salut de nous et de toute la création. Et tu vois aussi tous les dangers qui sont autour de nous et qui menacent notre écoute de la parole et qui donc menace le fait qu'on porte du fruit pour le royaume. Et je te prie donc, Seigneur, que tu nous donnes l'envie de porter du fruit, que tu nous rendes conscients de tous les dangers qui menacent notre écoute et que tu nous aides à mettre des choses en place pour être attentifs et pour, en église aussi, pouvoir grandir. Et ma prière, c'est vraiment tout simplement que tu continues à ce que cette église de la rue Sonra elle puisse porter du fruit pour ton royaume, Seigneur. Amen.
Que dire de plus? Soyons des bonnes terres. En tout cas, laissons pénétrer en profondeur, c'est vrai, cette parole. J'aimerais simplement vous laisser cette parole de Paul pour finir aux Éphésiens et aux Sonraciens. Je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur, de sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ, et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Et on peut connaître cet amour dans sa parole. Bonne semaine à chacun, à l'écoute de la parole, et à très vite.